connaissons Saül, c'est celui qui a marqué la monarchie, le début de la monarchie en Israël. C'est lui qui fut le premier roi du royaume d'Israël. Malheureusement, à cause de deux écarts importants, à cause de deux fautes importantes, notamment le fait qu'il prit l'initiative d'offrir un sacrifice en lieu et place du sacrificateur, et puis de par le fait aussi qu'il épargna le roi Agag, roi des Amalécites, ainsi que les plus belles bêtes parmi ses troupeaux, alors qu'il devait tout détruire, voué par interdit, pour reprendre l'expression de la Bible, Dieu l'a rejeté en tant que roi. Et il s'est choisi un autre roi en la personne du jeune berger David, comme nous le savons. Mais il y a un temps considérable, plusieurs années, qui se sont écoulées entre l'onction que David a reçue de la part du prophète Samuel et son intronisation. Plusieurs années, donc, se sont écoulées. Au début, tout semblait aller pour le mieux entre Saül et David, puisque après l'épisode où le jeune berger David terrassa le géant Goliath, Saül le convia à venir vivre au palais. Et David devint joueur de harpe pour calmer l'humeur versatile de Saül. Mais aussi, David devint le commandant en chef de l'armée de choc d'Israël, de l'élite de l'armée d'Israël. Alors, à chaque fois qu'il partait en campagne pour lutter contre des ennemis, David revenait victorieux, vainqueur. Tant et si bien qu'il devint le héros de la nation. Et un jour, les femmes ont commencé à composer des louanges en son honneur. Au chapitre 18 d'1 Samuel, verset 7, où nous lisons « Saül a frappé ses 1000, mais David a frappé ses 10 000 ». En d'autres termes, David a vaincu 10 fois plus de Philistins que Saül. Et ça a été le déclic qui a enclenché le processus de haine et de jalousie de Saül envers David. Et Saül, nous dit le verset 9 du chapitre 18 d'1 Samuel, regarda d'un œil mauvais, d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Finalement, David, se sentant en insécurité, se sentant en danger de mort même, au palais, prit la décision de, avec la complicité de son ami Jonathan, de s'enfuir. Et dans un premier temps, il est allé à Rama auprès du prophète Samuel, et puis dans la communauté des prophètes. Ensuite, il est allé dans une communauté à Nob, dans une communauté de sacrificateurs. Et par après, il a continué à fuir en allant se cacher dans les déserts, dans les grottes, dans les montagnes ou encore dans les forêts. Saül le pourchassera avec acharnement sans fin pendant plusieurs années, comme nous le disions au début. Et c'est dans ce contexte bien particulier de course-poursuite que s'inscrit, que s'affiche le texte que nous allons lire maintenant, et qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 23. C'est un long chapitre. D'ailleurs, j'ai envie que quelqu'un le lise, comme ça je peux souffler un peu. Si, viens près de moi. Bon, est-ce qu'il y a un volontaire pour le lire, ce chapitre? Il n'y en a pas. Allez, viens ici alors, Eric.
« On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'épaude. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte l'épaude. » Et David dit, « L'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur l'a appris, comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent, où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts. Et il resta sur les montagnes du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et il lui dit, « Ne crains rien. » Car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa, et dirent, « David n'est-il pas caché parmi nous ?» dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui est au midi du désert, descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain et je partirai avec vous. S'il est donc dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avec Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens était de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu Sela, Amak et Lot.
Il y avait vraiment des noms qui étaient compliqués à prononcer. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de faire la lecture du texte. Merci, Eric. Non, c'est pas vrai, mais quand même. Alors, j'espère qu'on a été attentif à la lecture. Il y a énormément de richesses à tirer de ce texte. Des versets 1 à 5, nous découvrons que David, pourtant en fuite, va délivrer la ville de Keila qui est tombée entre les mains des Philistins. Mais avant de se lancer vers cette entreprise, David va entreprendre une démarche très importante. Le texte nous dit qu'il va consulter l'Éternel pour avoir son conseil. Il va consulter l'Éternel peut-être par l'intermédiaire d'un prophète ou bien par une prière suivie d'une vision, d'un songe ou d'une révélation de la part de Dieu. Le texte ne le précise pas. Au verset 6, nous découvrons un autre personnage qui s'appelle Abiathar, fils d'Akimélec. Alors, qui est cet Abiathar ? C'est le fils d'Akimélec, on va dire. Mais encore, il faut se souvenir qu'au début de sa fuite, comme nous l'avons rappelé dans le contexte il y a un instant, eh bien, David s'est réfugié dans une communauté de sacrificateurs dont Akimélec était le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et là, David a bénéficié du secours des sacrificateurs qui lui ont donné du pain, des vivres, l'épée de Goliath, parce qu'il n'avait pas de quoi se défendre à ce moment-là. Et aussi, David a reçu par l'intermédiaire du grand prêtre Akimélec une révélation de la part de Dieu. On voit ça au chapitre 21 du livre de 1 Samuel. Apprenant que la communauté des sacrificateurs était venue en aide à David, Saül l'a très mal pris et il a considéré ça comme étant une trahison, tant et si bien qu'il a ordonné que l'on exécute les 85 sacrificateurs qui se trouvaient dans cette localité de Nob. Et un seul est parvenu à s'échapper, c'est Abiathar, celui du verset 6 que nous avons lu, qui s'en va rejoindre David dans la ville de Keila qu'il venait de libérer. Et il emporte avec lui, détail important, l'éphod. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éphod ? Eh bien, l'éphod, c'est tout simplement l'habit sacerdotal, l'habit que portait le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Et au niveau de la poitrine de cet éphod que portait le sacrificateur, il y avait le pectoral. Le pectoral, c'était une sorte de poche incrustée de 12 pierres de coloris différents sur lesquelles était inscrit le nom de chacune des tribus d'Israël. Et dans cette poche, il y avait deux autres pierres. Certains pensent que c'était des pierres de Sardoine, assez étranges, par lesquelles Dieu se révélait. Lorsqu'on voulait consulter Dieu, on allait trouver le sacrificateur qui, par l'intermédiaire de ces deux pierres, donnait la réponse de Dieu, la révélation de Dieu. On n'a pas beaucoup de détails concernant ces deux instruments, si ce n'est qu'on les appelait l'Urim et le Thummim, qui signifient lumière et perfection, ou bien encore révélation et vérité. Et selon l'historien Joseph, mais c'est à prendre avec réserve évidemment, l'une de ces deux pierres se mettait à briller avec éclat lorsque Dieu était présent. Alors, ayant, pour en revenir à notre texte, appris que Saül, se dirigeait vers la ville de Keïla pour en faire le siège et pour s'emparer de lui, David va encore consulter une fois l'Éternel pour savoir si les on-dit qu'il a reçus, qu'il a entendus, se vérifient ou pas. Et cette fois, eh bien, David va consulter l'Éternel par l'intermédiaire de cet Urim et de ce Thummim, qui se trouve dans les fautes portées par Abiathar. Et David reçoit effectivement la confirmation qu'il doit à nouveau s'enfuir. Ceux qu'il venait de libérer étaient prêts à le trahir. C'est fort, hein ? Il libère une ville de la main des Philistins, et les habitants de cette ville, peut-être par crainte de Saül, on ne sait pas, vont aller le trahir en disant à Saül, en envoyant faire dire à Saül que David se trouve dans l'enceinte de leur ville. Versets 11 et 12, « Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains ? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris ? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » Alors nous pouvons déjà tirer une première application pratique de ce texte. À quatre reprises, on voit que David consulte Dieu. Il consulta l'Éternel. On peut donc conclure que David avait une relation intime et régulière avec Dieu. Il consultait souvent Dieu quant à l'orientation qu'il devait prendre dans sa vie. David, un homme qui prenait le conseil de Dieu, qui cherchait sa volonté. Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous avons aussi cette relation intime et régulière avec Dieu, à l'instar de David ? Est-ce que nous recherchons, est-ce que je prends le conseil de l'Éternel pour ma vie ? Plus à travers le Rim et le Thummim, évidemment, mais quand même à travers leur signification. Souvenons-nous, le Rim et le Thummim signifient lumière et vérité. Alors, qui est la lumière, si ce n'est Jésus, lumière du monde ? Et qui est la vérité, si ce n'est encore que Jésus ? Mais aussi sa parole, ta parole est la vérité. C'est donc à travers ces deux éléments, ces deux parties, d'une part Jésus et d'autre part sa parole, que nous pouvons discerner la pensée de Dieu et sa volonté pour nos vies. La pensée de Dieu, en tout cas, ce qu'il veut bien nous communiquer de sa pensée. Est-ce que j'ai cette relation intime avec Dieu ? Après avoir délivré la ville de Keïla, David, traqué par Saül, continue à fuir et il se rend cette fois dans la forêt de Ziph. Dans la forêt de Ziph. Et là va survenir un autre protagoniste en la personne de Jonathan. Jonathan qui vient, c'est une surprise, rendre visite dans la forêt de Ziph à son ami David. Jonathan avait conclu, souvenons-nous, une alliance avec David. On trouve ça dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. Et ce, malgré sa différence de statut, Jonathan était un prince, David était un berger, et ce, malgré aussi la désapprobation de son père Saül, qui avait de l'aversion, de la haine et du mépris pour David, et tout en sachant aussi que David allait prendre sa place sur le trône, sur son trône, sur le trône qui lui était en principe réservé. Mais jamais, jamais Jonathan ne dérogera à ce pacte d'amitié qu'il a scellé avec David. 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 à 43, nous rapporte l'épisode émouvant de leur séparation, et je lis, Je ne sais pas si tu as le temps de l'afficher sur, derrière moi ou pas. 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 à 43. Nous trouvons ce récit émouvant de la séparation de David avec son ami Jonathan. Samuel 20, 41 à 43. Ça fait rien, alors on voulait simplement écouter la lecture. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes et Jonathan dit à David : Va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant : Que l'Éternel soit à jamais entre toi, entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Quel magnifique exemple d'amitié liant deux êtres soudés par l'affection et par un serment qu'aucune circonstance ne pourra éroder, altérer. Et puis aussi, quelle remarquable démonstration de la part de Salomon plus tard, lorsqu'il écrira en Proverbe 17, verset 17, peut-être suite au témoignage de son père par rapport au lien d'amitié qu'il le liait avec Saül, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Et ceci nous amène à une deuxième application pratique que nous trouvons dans le texte que nous avons lu, c'est l'amitié. L'amitié, c'est important d'avoir un ami, c'est important d'avoir une amie, mais c'est difficile d'avoir un ami, c'est difficile d'avoir une amie. Oh, bien sûr, nous avons des frères et sœurs en Christ, des frères et sœurs dans la foi. Nous avons peut-être aussi des frères et sœurs dans la chair avec qui nous pouvons nous entendre, avec lesquels nous nous complaisons, nous trouvons du plaisir à être ensemble, nous trouvons une certaine complicité, une certaine communion, mais tous ne sont pas nécessairement nos amis. Où est cet ami qui aime en tout temps, en toutes circonstances, même dans le malheur? Où est cet ami qui se montre plus qu'un frère? Celui qui consacre et qui sacrifie son temps, qui est disponible pour écouter sans juger. Où est cet ami qui fait preuve d'empathie? Où est cet ami qui conseille et qui reprend avec amour, mais aussi avec franchise et objectivité? Celui qui encourage, où est cet ami qui ne colporte rien de ce qu'il entend en confidence? Où est cet ami qui est aussi et encore ce partenaire de prière? Pouvons-nous encore établir des relations amicales, sincères, durable, stable et fiable, semblable à celle qui caractérisait la relation d'amitié qui unissait David et Jonathan. Jonathan, l'ami de David, affligé par l'épreuve, vient vers lui et lui apporte à la fois du réconfort, mais aussi une parole de prophétie. Et on lit ça au verset 17. « Ne crains rien, encouragement, réconfort, ne crains rien, car, prophétie, la main de mon père ne t'atteindra pas. » Et on le vérifiera plus loin dans le passage, si vous avez été attentif. La main de Saül n'atteindra pas David. Frères et sœurs, dans ce monde qui est caractérisé de plus en plus par le phénomène du chacun pour soi, serait-il devenu utopique d'envisager d'avoir des relations amicales à l'instar que celle que Jonathan avait développée avec David, à l'instar de celle que David avait développée avec Jonathan, ces relations amicales. Devant à nouveau fuir, à cause de la trahison des Ziphiens cette fois, des Ziphiens qui font partie de la tribu de Judas, eh bien, les Ziphiens qui ont informé que donc Saül, que David se trouvait sur leur territoire, David se dirige cette fois vers le désert de Maon, qui se trouve un petit peu plus au sud que le désert de Ziph. Et là, David qui est en fuite, eh bien, va être encerclé et cerné par Saül et son armée. Il va se trouver dans une situation dans laquelle il ne semble plus d'y avoir d'espoir. Une situation dans laquelle tout est perdu. Une situation dans laquelle il n'y a apparemment, à vue humaine, plus d'issue possible. Mais c'est à ce moment-là, justement, quand tout semble perdu, que Dieu va intervenir à travers les circonstances. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un messager va venir trouver le roi Saül et va lui dire, il faut que tu fasses demi-tour, que tu abandonnes la poursuite envers David rapidement, parce que les Philistins ont fait incursion dans le pays, il faut que tu arrives là, sur place pour les refouler, d'urgence, de toute urgence. Et c'est la mort dans l'âme, certainement remplie de haine et d'amertume, que Saül va devoir abandonner sa course-poursuite envers le fugitif, une course-poursuite effrénée pour aller porter secours à la ville de Jérusalem qui est en prise avec les Philistins. Verset 28 déclare: Saül cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Saül cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Dieu a donc attendu le dernier moment, l'ultime instant, pour intervenir en faveur de son roi, en faveur de David. Comme il l'avait fait, souvenons-nous, lors de l'épisode du sacrifice d'Isaac, fils d'Abraham. Il est intervenu au dernier moment. Comme il l'avait fait aussi à travers l'épisode où le peuple d'Israël se trouve pris entre le marteau et l'enclume, entre les taux, d'un côté les Égyptiens, d'un autre côté la mer Rouge, jusqu'au moment où celle-ci va s'ouvrir pour laisser un passage au peuple d'Israël. Et nous en arrivons à la troisième application de notre texte. Oui, Dieu parfois attend le moment ultime pour intervenir en grâce dans nos vies. Il le fait au dernier moment. Il paraît que pour aguerrir au difficile apprentissage du vol, ces petits, l'aigle, à un certain moment, au moyen de ses griffes, prend un de ses aiglons de son nid bien douillet, bien confortable, s'envole très haut, et puis le lâche. Alors le petit, en désespoir de cause, il commence à battre des ailes, à s'agiter, à lancer des cris en signe d'impuissance devant ce qui lui arrive, et ce n'est que lorsqu'il abandonne toute volonté d'échapper au danger par ses propres efforts que la mer, l'aigle, au dernier moment, se précipite vers lui, le saisit pour l'arracher du danger avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Au dernier moment. Et c'est la même chose parfois avec Dieu. Dieu intervient parfois dans les circonstances de nos vies alors que nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, alors que nous pensons que tout est perdu, que tout est fini, qu'à vue humaine, en tout cas, on ne sait plus rien faire. Dieu intervient parfois de cette manière au dernier moment. Or, ce n'est bien sûr pas parce qu'il serait indifférent à notre sort, ou ce n'est pas non plus parce qu'il nous aurait abandonnés. Mais, à travers l'épreuve, Dieu veut parfois aussi jauger le niveau de notre foi. Il veut parfois qu'on arrête de se débattre, qu'on s'abandonne pleinement entre ses mains, que l'on apprenne à lui faire totalement confiance, que l'on ne compte plus que sur lui, que l'on soit proche de lui pour qu'enfin il intervienne en grâce au dernier moment. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Même si tout nous paraît sombre, obscur, sans espoir, Dieu ne nous oublie pas. Le secours nous vient de lui. Et c'est dans des circonstances similaires que David, similaires à celles que nous venons de lire et de découvrir à travers la lecture de ce chapitre 23 du premier livre de Samuel, que David compose ce psaume 63. Nous lirons les versets 1 à 9. Si tu peux l'avoir, tu peux l'afficher. Psaume 63, versets 1 à 9. Je vais lire la version qui est affichée. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force, ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ta louange sera toujours dans ma bouche, écrit le psalmiste David au psaume 34, si je me souviens bien. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Et David écrit ce psaume dans une situation désespéré dans laquelle il se trouve. Mais à travers les difficultés, à travers la situation aussi complexe puisse-t-il être pour David, il continue à placer sa confiance en l'Éternel. Il continue à placer sa confiance en l'Éternel. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Conclusion. J'étais long aujourd'hui. Conclusion. Retenons au moins de ce chapitre 23 du premier livre de Samuel ces trois choses. David est un exemple pour nous. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il avait l'habitude de consulter Dieu pour les différentes circonstances de la vie. Il avait cette relation régulière et intime avec Dieu. Premier point. Deuxième point, David est un exemple pour nous parce qu'il s'était choisi un ami de qualité sur lequel il pouvait compter, tout en sachant que notre meilleur ami reste Jésus. L'ami par excellence. Et puis enfin, David est un exemple pour nous parce qu'il s'attendait au secours de Dieu, même quand à vue humaine, la situation semblait sans espoir. Alors que Dieu nous aide à réfléchir et à nous remémorer ce passage que nous avons lu ensemble, qui est riche en enseignements et qui est aussi intéressant au niveau de ses applications pratiques. Nous allons chanter maintenant quoi, le 339 dans toi la gloire. Mon Dieu est si bon. Oui. Comment ?